Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse 3, chapitre, verset 8 à 19. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors, on va demander au Seigneur de nous bénir dans cette étude. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, on est en train d'étudier ce livre de la Genèse où on voit de quelle façon le péché s'est introduit dans l'humanité. Alors, Seigneur, on a vraiment besoin que nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles soient vraiment bien ouvertes de manière à ce qu'on comprenne ce qui a été, ce que tu as fait, et le jugement que tu as amené sur Adam et sur Ève, sur le serpent, et aussi sur la lueur d'espoir que tu as déjà, que tu semais dans le cœur d'Adam et Ève, comme de quoi, Seigneur, tu prophétisais la venue du Messie qui viendrait régler ce grave problème qui avait été introduit par leur rébellion et leur désobéissance. Alors, Seigneur, on te prie ce matin que ton esprit vraiment nous éclaire, nous guide, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ce texte et surtout, Seigneur, à ce que nous comprenions les principes que tu veux nous inculquer pour qu'on les mette en pratique dans notre vie de tous les jours et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le passage d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, le procès divin d'Adam et Ève. Alors, on va voir que ça ressemble à un procès. Alors, c'est Dieu. Alors, la semaine dernière, on avait vu que l'homme, après qu'il avait chuté, après que Ève avait mangé du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal qui leur avait été défendu, il avait compris qu'il était nu et il s'était caché. Et on va voir maintenant que ça, c'était comme la première apparition du jugement. Eux-mêmes se sont rendus compte que leur péché les avait emmenés dans une certaine manière d'être et leur conscience était maintenant ouverte au fait que le mal était introduit dans leur vie. Maintenant, la semaine dernière, on n'avait pas vu le jugement divin. Maintenant, Dieu apparaît et on va voir de quelle façon il va juger le péché d'Adam, de Ève et les jugements d'Adam, de Ève et du serpent. Mais aussi au verset 15, le verset très important, qui va être une promesse du Messie à venir. Alors, tout en les jugeant, Il y avait de la miséricorde que Dieu exprimait à l'intérieur du verset Genèse 3,15. On verra un petit peu plus tard quel est le sens véritable de ce passage-là. Alors, j'ai intitulé le procès divin d'Adam et Ève. Alors, il y a trois grandes idées à l'intérieur du texte de 8 à 19. On a les coupables interrogés dans les versets 8 à 13. On a les coupables inculpés, versets 14 à 19. Et le dernier, les coupables informés, c'est vraiment le verset 15, parce que le verset 15, Dieu informe les deux pécheurs qu'il y aurait un Messie qui viendrait corriger le problème du mal, du péché dans la vie des hommes. Alors, on avait vu dans nos leçons précédentes, dans la leçon de la semaine dernière, comment le serpent avait réussi à faire tomber Adam et Ève dans la désobéissance et dans la rébellion contre Dieu. On avait, dans la semaine dernière, regardé les tactiques que Satan avait utilisées dans la tentation de nos premiers parents. Chose qui était remarquable, c'est que Satan, dans sa manière d'attaquer, ne dit jamais « Dieu n'a pas dit ». Il reconnaît que Dieu a parlé, parce qu'il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc, il reconnaît, donc c'est une de sa première habileté, il reconnaît que Dieu a parlé. Mais, dès qu'il a eu dit ça, il ajoute à la parole de Dieu. Il fait dire des choses à Dieu que Dieu n'a pas dit. Et la même chose pour Ève. Alors, il y a eu, comme on a vu la semaine dernière, qu'il y avait trois choses qui se passaient dans les relations de l'homme avec la parole de Dieu. Ajouter, enlever, et la dernière, c'était altérer. Alors, quand tu parles de la parole de Dieu, quand l'homme ajoute à la parole de Dieu, il peut amener Dieu à dire des choses qu'il n'a pas dit. Si tu enlèves, c'est exactement la même chose. Et si tu altérer, ça veut dire changer le sens premier de ce que Dieu a dit. Dieu avait dit, tu mourras certainement. Lui, après ça, après dans le questionnement, il dit, ben non, tu mourras pas, tu vas devenir comme Dieu. Alors, on voit que ça l'a fait tomber l'homme. Et la semaine dernière, après le culte, on parlait un petit peu, est-ce que Adam et Ève, après qu'ils ont eu tombé, étaient conscients de l'ampleur des conséquences du péché? Bien sûr, ils ont pris une certaine conscience, ils étaient nus, et tout ça, ils se sont cachés. Mais est-ce qu'il y avait vraiment la conscience que leur communion avec Dieu était brisée? Je pense qu'ils en avaient une certaine conscience, mais que cette communion-là était non seulement brisée pour eux, mais qui était brisée aussi pour toute leur descendance, dont tous les hommes. Donc, tous les hommes sont des descendants d'Adam et Ève, et à cause de leur chute, nous, on est au monde pécheur. Alors, il reconnaît que Dieu a parlé, mais il ajoute à la parole de Dieu, mais pas bien longtemps après, il la nie. Parce que Dieu avait dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Certaines versions disent, tu mourras certainement. Et lui, il dit, ben non, tu mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir, tu vas connaître la différence entre le bien et le mal. Donc, il nie la parole. Après ça, ce qu'il fait, c'est que d'une façon, il insinue que Dieu cherche à leur cacher quelque chose, une certaine grâce. Parce qu'il dit, c'est comme s'il voulait dire, ben, Dieu n'a pas voulu vous donner cette connaissance-là, il a voulu la garder pour lui. C'est comme s'il présente Dieu sous un jour défavorable. C'était vraiment un péché d'une grande audace d'essayer de questionner la personne même de Dieu, ses attributs, ses perfections. Et il questionne aussi son caractère. Et il termine en offrant, en faisant miroiter à l'homme et à la femme des bénéfices. Vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Et bien entendu, Ève a cédé, et en cédant, elle a eu l'idée d'offrir à son mari d'en prendre, et lui, la même chose, il en a pris. Alors, on sait que l'objectif du malin, c'est toujours de s'interposer entre l'âme de l'homme et la personne de Dieu, son Créateur. Il veut détourner son cœur de Dieu. Il veut diriger la confiance de l'homme, non pas envers Dieu, mais il veut la détourner envers lui. Et ensuite, il veut usurper la place du Seigneur et il veut rendre l'homme assujetti à sa volonté. Et on sait que ça fonctionne parce qu'un petit peu plus tard, dans les Écritures, on va voir que les Écritures, même le Nouveau Testament, nous dit que oui, il a été, l'homme est assujetti à la volonté du malin. Et il cherche aussi, le malin toujours, à substituer sa parole à lui, à celle de Dieu. Et il finit toujours, parce que l'homme qui tombe dans le péché, il finit toujours par questionner la bonté de Dieu. Vous remarquez ça, quand on tombe dans le péché, on cherche toujours à se justifier, on cherche toujours, et là, on se met à questionner les perfections de Dieu à notre égard, sa bonté, sa justice, son amour, sa miséricorde, et bien d'autres choses encore. Quand on sombre dans le péché, on cherche à justifier notre péché et on cherche à questionner Dieu. Alors, c'est vraiment... nos premiers parents nous montrent que, vraiment, ils nous ont montré un hyper mauvais exemple. Alors, on conserve à mémoire, comme vous avez dit la semaine dernière, que Satan, Ève et Adam, et l'homme en général, depuis le début, face à la parole de Dieu, il y a toujours les trois tactiques qui sont... Si on regarde les principales erreurs théologiques qui se sont développées dans le cours de l'histoire et qu'on regarde la racine de tout cela, c'est toujours une de ces trois raisons-là. Ou l'homme ajoute à la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et on ne peut pas non plus, s'il y a une page des Écritures qui ne fait pas notre affaire, on ne peut pas dire, ben moi ça ne fait pas mon affaire, puis on la déchire. On ne peut pas ni ajouter, ni enlever, ni altérer. On ne peut pas dire une phrase que Dieu a dit et de tordre deux, trois mots, changer deux, trois mots ici et là, de façon à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Donc, les trois problèmes fondamentaux de l'homme avec les Écritures, c'est toujours soit ajouter, soit enlever, soit altérer. Et quand il le fait, bien, ça l'emmène dans des erreurs. Et en théologie, dans notre relation avec Dieu, des erreurs peuvent être fatales. Des erreurs sur le salut, si on ne comprend pas vraiment ce qu'est le salut, on risque de l'enfer éternel, autrement dit. Alors, on se devrait d'apprendre de notre étude de Genèse 3. On n'étudie pas un passage uniquement comme ça, juste pour dire « Ah, c'est intéressant de voir comment c'est rentré ». Dieu permet, les Écritures, qu'on les lise, qu'on réfléchisse sur le sens, qu'on médite sur le... Et il y a des leçons qu'on se devrait d'appliquer, de mettre en pratique dans nous. Alors, un sermon, c'est pas juste pour informer, c'est fait aussi pour nous transformer. Alors, si un sermon ne nous amène pas des changements dans notre vie, à quelque part, c'est soit qu'on était dans l'une durant le temps du sermon, soit qu'on a mal compris, mais si on a bien compris, ça devrait amener certains principes dans nos vies, à appliquer dans nos vies pour qu'on puisse changer quelque chose. Parce que ce que Dieu veut pour les chrétiens, il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et si on prenait la liste de toutes les perfections de Christ, puis qu'on les mettait à côté de notre nom, est-ce que je suis aussi bon que Christ quand il est venu sur la terre? L'homme Christ, là, l'homme Jésus. Est-ce que je suis aussi miséricordieux que lui? Alors, il veut, le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Alors, c'est un gros contrat, comme on dit. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour nous transformer, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la faute d'Ève? Parce qu'on sait que la première qui est tombée, d'après le récit de Genèse, c'est Ève. On apprend que sa première erreur, ça a été d'engager une conversation avec Satan. On ne doit jamais discuter avec le malin. parce qu'on ne doit pas oublier une chose, il est beaucoup plus intelligent que nous, beaucoup plus expérimenté que nous, et il peut vraiment nous entraîner très, très loin. Alors, on ne discute pas avec lui. On a vu aussi que sa conversation qu'elle a engagée avec le malin l'a entraîné dans ce que j'appellerais les marches descendantes. C'est comme si vous prenez une marche en haut, si vous descendez en bas, les marches descendantes. Bien, sa conversation avec Satan l'a emmené dans des marches descendantes de la désobéissance. La première marche était la curiosité. Ah! Dieu a voulu nous cacher quelque chose. On pourrait obtenir plus qu'est-ce qu'on a là. Ça a été de douter de la bonté de Dieu. Ça a été vraiment d'être curieuse, de voir qu'est-ce qu'elle avait manqué. La deuxième chose, ça a été le vacillement. Vaciller, ça veut dire quoi? Tu peux avoir un doute, mais tu vacilles pas, parce que tu te reprends en main tout de suite, tu dis, non, on ne m'embarque pas là-dedans. Comment on ne serait pas à douter des bontés de Dieu à mon égard? Parce qu'on sait qu'il avait tout eu. Il était dans un endroit idéal. Mais quand tu vacilles, c'est qu'on te présente quelque chose, et là, tu doutes, et vaciller, ça veut dire, peut-être que... Alors, elle a vacillé, deuxième marche. Troisième marche, le mécontentement. Alors, quand tu es dans un milieu absolument parfait, tous leurs besoins sont comblés de A à Z, et elle devient mécontente de son sort. Autrement dit, elle dit, Dieu m'a donné plein de choses, mais il ne m'a pas donné la connaissance du bien et du mal. C'est comme, elle percevait ça comme, elle n'était pas contente de ce que Dieu lui avait donné. L'autre marche plus bas, l'ambition. Elle s'est mise à dire, regardons ça serait intéressant. Si je pouvais connaître le bien et le mal. Elle voyait des avantages, mais on sait que certains menteurs, et il l'avait emmenée à vouloir croire qu'elle aurait des avantages, des bénéfices. Et l'autre marche, c'est la chute personnelle. Alors, après avoir descendu toutes ces marches-là, elle chute elle-même. Mais on voit une autre caractéristique de l'homme. Quand on parlait tantôt des caractéristiques, des principes qu'on se devrait de retenir, quand l'homme tombe dans le péché, une autre de ses caractéristiques, c'est d'essayer d'entraîner quelqu'un d'autre dans son péché. L'être humain, il est bâti comme ça. Quand il pêche, il n'est pas capable de rester, de s'occuper, autrement dit, juste de ses affaires de pêcheur. Il cherche à faire tomber quelqu'un d'autre avec lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a présenté le fruit à son mari. Et lui, il a mordu, il a tombé dans le panneau lui aussi. Alors, non seulement elle a tombé elle, mais elle a cherché à entraîner quelqu'un d'autre à sa suite. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Est-ce qu'on apprend que le péché est contagieux? Selon moi, oui. Parce que on apprend que quand on tombe dans le péché contagieux, ça veut dire que quand on tombe dedans, on est porté à emmener d'autres personnes avec nous pour les faire tomber aussi. Alors, la semaine dernière, on avait vu ce qu'on pourrait appeler la sentence officieuse. Tu sais, des fois, quand on parle d'une rumeur qu'on a entendue, on dit « c'est officieux ». Autrement dit, c'est connu, mais c'est pas encore officiel. Officieux, ça veut dire, on a entendu ça à travers les branches, et ça se peut que ça soit vrai, mais rien qui a été confirmé encore. On avait vu la sentence officieuse qui était tombée sur eux. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dès qu'ils l'ont mangé, ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils étaient nus, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient peur de Dieu maintenant. Alors Adam et Ève, ils prennent toutes les deux simultanément conscience de leur corruption, de leur pollution, et ils cherchent à cacher leur faute. Comment on a vu qu'ils cherchaient à cacher leur faute? Ils étaient nus avant, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Là, quand ils tombent dans le péché, ils prennent des arbres, des feuilles de figuier, puis ils se font une petite ceinture avec ça. Alors, l'image de ça, c'est que l'homme, quand il tombe dans le péché, il a toujours tendance à se couvrir de sa justice propre. Sa justice propre, autrement dit, c'est que on parlait tantôt que l'homme, on parlait de la justice, la robe de justice de Christ, C'est que nous, on parlait tantôt des commandements, on disait qu'on ne serait jamais capable d'obéir à la perfection aux 10 commandements de Dieu. Alors, si nous, on n'est pas capable, et que Dieu exige cela de nous, ou qu'on va l'apprendre, notre justice, il faut que ce soit la justice d'un autre, la justice de Jésus-Christ. C'est lui, quand il est venu sur cette terre, qui a accompli à la perfection le décalogue ou les 10 commandements, et les accomplit pour ceux qui croiraient en lui, pour que ça puisse être mis sur leur compte. Autrement dit, que Dieu voit, à cause de ta foi en Jésus-Christ, que l'obéissance que lui exige, elle a été accomplie, mais par un autre. Pas par toi, mais par un autre. Alors, ils ont cherché à fuir et à cacher leur faute par leur ceinture et aussi fuir de la présence de Dieu. Alors, c'est là qu'on était rendu. C'est juste pour qu'on continue de voir le flot de toute cette pensée-là. Là. Alors, ils ont vu tout de suite, soudainement, leurs innombrables misères morales dans leur volonté d'être indépendants de Dieu. C'est ça qu'ils ont voulu être. Ils étaient dépendants de Dieu, il n'y avait aucun problème. Là, ils ont voulu être indépendants de Dieu. Mais moi, je veux être comme Dieu, je veux connaître le bien et le mal. Alors, ça les a amenés à connaître leurs innombrables misères. Ça leur les a amenés aussi à connaître que Satan leur avait promis un fruit, mais c'était un fruit empoisonné. Autre chose que ça les avait amenés à une connaissance qui était absolument destructrice et culpabilisatrice. Leur conscience était maintenant, dorénavant, éveillée à la corruption de leur cœur. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de péché, ils n'avaient pas tombé. Mais maintenant qu'ils ont désobéi au Seigneur, qu'ils se sont rébellés contre lui, là, ils prennent conscience de leur état de péché. Et ils prennent conscience aussi, jusqu'à un certain point, de la tragédie de leur condition. Tantôt, on disait, est-ce qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils ont amené comme conséquence sur la terre? Les maladies, les guerres, les violences, les meurtres, et tout ce qui se passe de mal sur la terre. Est-ce qu'ils ont eu conscience de tout ça, que ça l'amènerait, ces choses-là, sur la terre, au cours de tous les siècles à venir? Pas sûr. Mais c'était quand même eux qui avaient amené ça. Alors, ils voyaient maintenant le côté tragique de leur condition et ils sentaient très certainement leur perdition. Parce qu'à partir du moment où que ta communion avec Dieu est brisée et qu'il n'y a pas quelqu'un pour te la rétablir, si tu décèdes comme ça, tu t'en vas en enfer. Alors, il fallait que Dieu, oui, juge leur péché de façon sévère, on va le voir, mais aussi qu'il leur fasse leur donne une lueur d'espoir en leur présentant dans Genèse 3:15 la promesse prophétique du Messie qui viendrait. Il n'était pas venu encore. On était au début de l'humanité. Maintenant, la prise de conscience qu'ils ont eue à partir du moment qu'ils ont péché s'est manifestée d'une façon double. La réalisation de leur nudité et la vaine tentative de se couvrir eux-mêmes. Alors, on va maintenant passer, on a vu que ça, c'était la sentence officieuse. Maintenant, on va passer à la sentence officielle, celle que Dieu lui-même va venir donner sur le péché. C'est en quelque sorte un procès. Le passage qu'on lit ce matin, c'est comme il emmène les deux à la barre. Et là, il est juge. Alors, le paradis devient maintenant un tribunal, et le gardien des lieux, qui était le gardien des lieux, il devient maintenant un criminel condamné. Alors, la scène qu'on va étudier ce matin comporte deux aspects. Le procès lui-même, versets 8 à 13, et le verdict. On sait que quand on passe en cour, on est interrogé. C'est pour ça que mon premier point, c'était les coupables interrogés. Dieu va commencer par leur poser des questions. Ils vont répondre d'une manière misérable, en cherchant à s'excuser, en cherchant à faire porter la faute à quelqu'un d'autre. Alors, le verdict, versets 14 à 19, « Mais Le verset 15 est vraiment un des versets très importants des Écritures parce que c'est la première mention, après le péché, que Dieu pourvoirait à une solution au problème énorme et immense qu'il venait de faire entrer dans l'univers. Genèse 3:15. On va le voir un peu plus en détail. C'est notre troisième point. Ce matin, on va commencer par les versets 8 à 13. Et c'est vraiment les coupables interrogés. On voit qu'il y a des interrogations de Dieu dans cette partie-là. Alors, l'interrogation, c'est comme si le verset 8 veut nous présenter qu'il y a des préparatifs. On sait, si on est accusé de quelque chose, on va recevoir, un subpoena, on va recevoir quelque chose, on va avoir un téléphone ou la police va venir nous rendre visite. Mais alors, il y a des préparatifs avant qu'on passe en cours. Alors, c'est un peu ça, le verset 8. La semaine dernière, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, il y a deux choses qui se passent. Les yeux sont ouverts. Après ça, les oreilles entendent. Et entendent, sont ouverts spirituellement à leur condition de pécheur. Maintenant, ils entendent Dieu. Alors, ils disent, alors, à partir du moment où ils ont eu les yeux ouverts, alors, donc c'est après, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Normalement, ça n'aurait pas dû créer chez eux avant la chute, là, aucune peur, aucune tentative de se cacher. Ils auraient été heureux de rentrer en communication avec le Seigneur et de lui parler. Et là, ça dit, parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que le péché nous amène comme réflexe? On cherche à se cacher à partir du moment qu'on a péché. On cherche à se cacher de Dieu lui-même. Et il s'était caché au milieu des arbres. On le sait, les Écritures nous l'apprennent, Dieu est omniscient. Est-ce que, quand il pose la question « Où es-tu? » Est-ce qu'on est en train d'insinuer que Dieu ne savait pas ce qu'il était? Ben non, il savait. C'était plus dans le sens où t'es rendu, où t'es tombé, où t'es rendu. Alors vraiment, la conscience de l'homme pécheur est troublée lorsqu'il entend la voix de l'Éternel. Un peu comme quand les hommes vont passer en jugement, au jugement dernier. Les hommes vont être terrorisés d'entendre la voix de l'Éternel, à moins qu'ils soient des personnes qui ont reçu le salut de Dieu. Et à ce moment-là, la voix de Dieu ne les terrorisera pas. Mais les hommes non convertis qui ont vécu leur vie au complet dans le péché, quand ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont être littéralement terrorisés. C'est ça que les Écritures nous apprennent. Alors, ici, la voix de Dieu fait comprendre à l'homme sa culpabilité. Et lui cherche à se cacher, imaginez-vous, à essayer de se cacher de Dieu. Quand vous avez déjà lu le psaume 139, où l'Éternel nous dit qu'il sait toutes choses sur nous, il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sait quand on parle, il sait même les mots qu'on va dire avant même qu'on les dise. Il sait tout sur nous, absolument tout. Il n'y a rien, même pas une pensée qu'on a eue qu'il ne connaît pas. Et on voudrait se cacher de lui. Complètement. On voit que l'homme pécheur devient stupide. Il cherche à se cacher de son Créateur. Il cherche à éviter la présence de Dieu. Il trouve sa solution dans la fuite et dans la cachette. Avez-vous remarqué que les pécheurs, quand ils se font pogner dans quelque chose, on regarde la commission Charbonneau, quand il l'a eu, là, et il interrogeait des gens, il les emmenait en accusation, leur disant qu'ils avaient volé des fonds publics, de faire de même. Avoir marqué les réactions en général que les gens ont eues, ceux qui étaient mis en accusation. Ben non, on m'accuse faussement. Il n'y avait personne de coupable, il n'y avait aucun coupable. Pourtant, avant d'emmener quelqu'un en accusation, il devait avoir un paquet de preuves. Mais on voit que l'homme, quand il pêche, il fait toujours les choses en cachette, puis il a toujours tendance à se cacher pour pas que les autres voient. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on regarde des fois les gens autour de nous, il y en a qui ont des belles grosses maisons, Et souvent, quand on regarde, quand on gratterait un petit peu la surface, on s'apercevrait que beaucoup de ces choses-là ont été acquises malhonnêtement. Mais il veut avoir une belle apparence devant les hommes. Mais quand ça dit « ils entendirent », ce qu'on apprend, c'est que nos premiers parents comprenaient que la condamnation par Dieu approchait. Pourquoi ils se sont sauvés? Ils ont entendu l'Éternel qui se promenait dans le Jordan, et là, c'est comme s'ils se sont parlé entre eux autres, puis ils disent « Hey, allons-nous cacher, le grand patron vient de se présenter. » Alors, en se cachant, est-ce qu'ils enlevaient de leur culpabilité ou s'ils ajoutaient à leur culpabilité? Quelqu'un qui est accusé de quelque chose, puis qui sait que la police s'en vient, puis qui prend ses pattes, puis prend l'avion pour s'en aller dans un autre pays, est-ce que ça l'enlève de sa culpabilité ou si ça ajoute à sa culpabilité? Ça ajoute à sa culpabilité. Alors, de pouvoir croire que tu peux te cacher de Dieu en ignorant que Dieu est omniscient, donc il sait tout, mais on sait que, qu'il veuille pas, l'affrontement entre Dieu et les coupables va finir par être inévitable. Alors, ils vont devoir subir le châtiment qui est attaché à leur terrible péché. Ici, il y a quelque chose d'important. Quand vous lisez les Écritures, des fois, on ne porte pas attention à ça, mais c'est très important. Le juge, qui est Dieu lui-même, interroge les rebelles. Remarquez l'ordre. L'homme. Pourquoi il n'a pas pris la femme en premier? C'est elle qui avait péché en premier. Mais l'homme était le chef de la famille. Ça aurait dû être lui qui aurait dû empêcher sa femme. Alors, il interroge d'abord l'homme, puis la femme, avant de prononcer le verdict. Ainsi, il rétablit l'ordre correct de la chaîne d'autorité que le tentateur avait essayé de renverser. Des fois, on lit ça rapidement, on ne remarque pas ces choses-là, mais quand on les remarque, on voit que chaque fois que Dieu intervient, il y a toujours beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse dans sa manière de procéder. Alors, l'interrogation d'Adam. Donc, on a vu l'interrogation des préparatifs. Ils ont entendu la voix, ils ont cherché à se cacher. Versets 9 à 12, regardez combien il y a de questions là-dedans. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Donc, ce que je viens de vous faire remarquer, d'abord l'homme, pour rétablir, comme on a dit, la chaîne d'autorité. C'est l'homme qui avait l'autorité en tenant le couple, c'est lui qui est responsable en premier. Donc, il fait appel à lui en premier. Après ça, il lui dit, « Où es-tu? » Première question. Là, Adam, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Est-ce que ça devrait nous faire peur, la voix de Dieu, quand on est réconcilié avec lui? Non. Mais si on est dans le péché, la voix de Dieu, là, elle peut nous faire peur, nous terroriser. Il dit, « J'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. » Verset 11, « Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Avant, il était nu, mais c'est comme s'il n'en était pas conscient. Et il pose une troisième question, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Voyez-vous, quand on parle d'une interrogation, il vient interroger et on voit que les réponses d'Adam sont vraiment pathétiques et misérables. Et le verset 12, l'homme répondit, regardez bien sa réponse. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Plutôt que de reconnaître sa culpabilité, il dit, ben non, c'est la femme. Pas ma faute, c'est la faute de l'autre. On connaît ça, ce réflexe-là. Hein? On est habitué, on l'a encore, nous-mêmes, on l'a encore. Quand quelqu'un nous accuse d'une faute, d'un péché, on est toujours porté à dire « pitoué, pitoué ». On veut toujours, c'est comme un boomerang, ça se retourne vers la personne qui veut nous accuser, qui veut nous faire porter un chapeau que des fois on devrait recevoir tout simplement avec humilité. Oui, j'ai péché, oui, j'ai manqué, et confesser notre péché. Mais c'est pas ça qu'on fait. Ben non, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la femme. Et remarquez bien la manière dont il termine. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Qu'est-ce qui... C'est comme un sous-entendu. Il est en train de dire, ben, peut-être que c'est ta faute aussi, parce que c'est toi qui l'as mis à côté de moi. Voyez-vous, le péché, qu'est-ce que ça fait faire? Ça t'amène à accuser un autre, autrui, de ta faute, et ça t'amène à questionner Dieu, lui-même. Dire, ben, si tu ne l'avais pas mis à côté de moi, ça n'aurait pas arrivé. C'est comme une façon d'accuser Dieu, dans le fond. Là. Et il dit, et j'en ai mangé. Alors, sa réponse est, ce qu'on pourrait appeler, quand on, si on va en cours, là, va penser une fois, je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. Il y avait un homme à Lac-Mégantic, dans le temps, j'étais à Lac-Mégantic, il avait fait un vol. Puis, il avait volé des pneus. Il s'était fait prendre. Puis, il était emmené en cour. Et là, en cour, bien entendu, les avocats commençaient à dire, ben là, on a trouvé les pneus chez vous. Puis, l'avocat était un bien piètre avocat. Il a dit au juge, il était comme mêlé dans son pas son verdict, mais sa façon de présenter les choses. Il dit, en tout cas, une chose certaine, monsieur le juge, c'est pour moi qu'ils ont volé les tires. Quand on a un avocat de même, ben vous avez une affaire. Mais, en tout cas, il dit... Et ici, dans le fond, la réponse de Adam est aussi pathétique que la présentation de l'avocat dont je viens de vous parler. Alors, Dieu commence par appeler l'homme en lui disant « Où es-tu? » au verset 9. Bien sûr, Dieu n'ignore pas où Adam et Ève se cachent. Dieu est omniscient, donc il savait qui était. Alors, c'est plutôt « Où es-tu? » C'est comme s'il donnait un ordre de sortir de sa cachette pour venir s'expliquer. Et je pense que l'expression peut aussi signifier « Est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de la chute et du péché dans lequel tu es tombé? Où es-tu? » Dans le sens, c'est un peu comme si on rencontrerait quelqu'un, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis il était une personne qui était très, très bien physiquement, puis on le voit dans un état déplorable, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, et il est rendu vert, il a maigri. C'est comme, voyons, ce qui se passe avec toi? C'est un peu comme si on dirait ça. Alors, c'est vraiment, est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de la chute et du péché dans lequel tu es tombé? Par sa réponse, Adam se condamne lui-même. Il a voulu cacher sa nudité devant le Dieu qui l'a créé. Il est dominé, comme il dit lui-même, par la peur et le désir de fuir. Le pécheur a toujours la tendance de vouloir se cacher et fuir. Il ne veut pas affronter ses responsabilités. On avait dit que quand on voit le mot « l'éternel Dieu » dans l'original, c'est Jéhovah Elohim. Hein? Jéhovah, le Dieu qui veut rentrer en relation avec son peuple. Elohim, le Dieu trinitaire. Donc, c'est comme Jéhovah Elohim pose alors deux autres questions. Qui t'a appris que tu étais nu? Alors, il est en train de faire sortir la culpabilité dans le cœur d'Adam pour qu'il se rende compte qu'il a vraiment péché. Et là, la dernière question est vraiment la question auquel il ne pouvait vraiment pas répondre, excepté en disant « Je suis coupable ». Et c'est pour ça qu'il a dit « Je suis coupable ». Il a dit « C'est la femme que tu m'as donnée ». Alors il dit « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Alors, même s'il admet au verset 12, quand il dit « J'en ai mangé », Adam cherche à faire porter la responsabilité à sa femme. Mais c'est pas de ma faute. C'est à elle à pas en manger. Ça n'aura pas mangé. Je n'aurai pas mangé. Et en plus, il dit à Dieu, mais voyons, si c'est parce que tu me l'as donné que je suis tombé. Si tu me l'avais pas donné, je serais pas tombé. Voyez-vous, il y a quelque chose de complètement dément là-dedans. Et ça nous montre une caractéristique de nous-mêmes qui sont des pécheurs et qui souvent les techniques, les façons de répondre d'Adam et Ève ressemblent drôlement aux nôtres quand on est mis en accusation. Maintenant, il va passer à Ève. Alors, on cherche toujours à se déresponsabiliser. Pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Pas ma faute, c'est la faute de ma famille. Pas ma faute, c'est la faute à ma mère. Pas ma faute, c'est la faute à mon père. Pas ma faute, c'est la faute à mon patron. On a toujours une raison pour pousser la responsabilité sur l'autre. Verset 13, là, il interroge Ève. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et regardez encore, alors la femme ne sera pas mieux que l'homme là, dans la réponse. La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Est-ce que Dieu te l'avait dit que si tu t'en mangerais, tu tomberais et tu mourrais certainement? Oui, il te l'avait dit de façon très, très claire. Et là, elle veut faire porter, « Ben, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. » Alors l'homme, il dit, « C'est pas ma faute, c'est la faute à ma femme. » Puis il dit, « En plus, ben, c'est ta faute un peu, Dieu, parce que si tu ne me l'avais pas donné, je serais pas tombé. » Et la femme, ici, a dit, « C'est le serpent, c'est la faute du serpent. C'est toujours la faute de l'autre. » Alors, quand Dieu demande à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Elle essaie, elle aussi, d'atténuer sa faute en accusant le serpent. Le serpent est-il responsable du péché de la femme? Et celle-ci responsable du péché de l'homme? Non. Le tentateur n'a fourni que l'occasion et l'opportunité de pécher. Même chose que nous. Quand Satan nous tente, il nous donne une occasion, il nous donne une opportunité de pécher. Et quand on tombe, c'est pas de sa faute, c'est notre faute à nous autres. Alors Adam et Ève ont librement décidé de désobéir à Dieu. Alors la femme a pris l'initiative sans s'en référer à son mari et celui-ci a parachevé cette tragique histoire-là en décidant de participer lui aussi à cette rébellion-là. Les deux ont péché et ils aggravent leur cas, comme on dit, en accusant autrui. C'est un peu comme si quelqu'un se fait prendre à voler puis il essaye d'accuser un autre alors qu'on sait que c'est pas vrai. Il fait juste déterminer qu'il est encore plus coupable. On est responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on omet de faire. Bien important de mettre les deux. C'est pas juste que ce qu'on fait qui est péché, c'est ce qu'on omet de faire. Les péchés d'omission sont très importants aussi. Et on est jugé en conséquence de toutes ces choses-là. L'argument qui consiste à faire retomber nos mauvais choix sur notre arrière-plan. C'est mon père. C'est la faute à mon père. S'il ne m'avait pas traité de cette manière-là, je ne serais pas comme ça. C'est la faute à ma mère. C'est la faute à mon professeur. C'est la faute à mes gènes. Mais si je suis le même, c'est mes gènes. Ça, c'est... Moi, j'ai un gène X, puis j'ai un gène Y, puis ils vont jouer avec des concepts que je suis complètement dément. Et bien là, on va dire c'est la société. Où c'est complètement irrecevable devant un tribunal et tous les arguments que l'homme et la femme ont présentés devant Dieu étaient irrecevables. La grande question qu'on se pose souvent par rapport à Genèse 3, c'est la question que les Écritures nous disent qu'à cause qu'Adam et Ève ont tombé, nous, on est tombés en lui et avec lui. Ça, on a de la misère avec ça. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais entendu des affaires dans le catéchisme et il nous disait ça, qu'on était responsable, qu'on avait péché en Adam. Mais je me disais, disons, j'étais dans les années 50, là, je me disais, moi, je suis dans les années 1950, puis tu veux me faire porter la responsabilité de la chute d'un autre qui s'est passée là, plusieurs milliers d'années. Mais ça me semble dans ma tête, ça sonnait drôle. Et ça sonne encore drôle quand vous dites aux gens qu'on est pécheurs parce que nos premiers parents ont tombé et que nous, les Écritures nous apprennent dans le Nouveau Testament que quand lui est tombé, nous, on est tombé en lui et avec lui. Regardez, là, je ne l'invente pas, là. On va aller dans Romains, chapitre 5, les versets 12 à 19, pour qu'on se rende compte de ça, parce que les Écritures, c'est ça qu'elles nous enseignent. Voyez-vous, dans le verset 12, ça dit, « C'est pourquoi... comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » De quoi on parle, là? C'est pourquoi, comme par un seul homme, quel homme? Adam. Le péché est entré dans le monde. Donc, on sait que c'est à cause d'Adam que le péché est entré dans le monde et que tous les êtres humains qui l'ont suivi par génération ont hérité du même problème. Et par le péché, la mort. La mort physique, Quand on est pécheur, on meurt à cause. Parce qu'avant, dans le temps qu'il était dans le Jordan, s'il n'avait pas péché, il ne serait pas mort physiquement. Et il y a une autre mort qui s'est passée, c'est la mort spirituelle. Le contact avec Dieu s'est brisé. Et ça, la cachette. Et il y avait une autre mort qui est mentionnée plus tard dans les Écritures, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, ça veut dire quelqu'un vient au monde pécheur. Et s'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu à cause de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, s'il décède dans cet état-là, il va dans l'enfer pour l'éternité. Alors, c'est ça que ça dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est en train de nous dire que dans la chute d'Adam, nous-mêmes aussi, on était là, en quelque sorte, parce qu'il était notre représentant. Verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus. » Voyez-vous, ici, il est en train de faire un parallèle entre ce qu'on appelle le premier Adam, le premier homme qui est passé sur la terre. À cause de lui, on a chuté, on était en lui, on était avec lui. Il est en train de nous faire prendre conscience que la solution, c'est dans le second Adam, et il nous mentionne son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, non seulement il a payé la punition, il a subi sur lui-même la punition que nous, on aurait dû subir, il a pris notre place. Mais ce n'était pas suffisant, Dieu demandait en plus une parfaite obéissance au décalogue, à la loi de Dieu. Et personne d'entre nous ne l'a fait. Alors, si ce n'est pas nous qui le fait, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait, parce que Dieu, pour qu'on rentre dans sa présence, il faut que nos péchés aient été jugés et que le Christ ait subi l'équivalent de la souffrance qu'on aurait dû subir en enfer à notre place, et que Christ a aussi accompli à la perfection, par la parfaite obéissance au décalogue, il l'a fait aussi à notre place. Et vous, le salut, c'est quelque chose de simple, hein? On aurait dû être jugé en enfer pour tous nos péchés, pour l'éternité. Il y a quelqu'un qui a accepté de subir le châtiment à notre place. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ, qui était l'homme-Dieu. Et il a aussi accepté de remplir les conditions divines qui voulaient qu'on ait une parfaite obéissance à la loi de Dieu à notre place. Voyez-vous, le salut, c'est toute une affaire de substitution. Jésus s'est substitué à moi pour subir mon châtiment. Jésus s'est substitué à moi pour accomplir les exigences divines. La Bible nous dit que quand on comprend ça par la grâce de Dieu, qu'on ouvre les yeux, à ce moment-là, on est sauvé. On comprend que je n'ai plus à accomplir la loi de la perfection pour être sauvé, puis que mes péchés, c'est pour moi, je ne les subirai pas en enfer, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà subi mon châtiment à ma place. C'est-tu merveilleux, le salut? Ça ne peut pas être plus merveilleux que ça. Verset 16, « Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul péché, car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Voyez-vous, le Nouveau Testament vient nous expliquer le sens de Genèse 3 qu'on vient ce matin. Il dit, par une seule offense, l'offense de qui? L'offense d'Adam. La condamnation a atteint tous les hommes. C'est qui ça, tous les hommes? C'est nous, tout le monde. À cause du péché d'Adam, on était en lui en quelque sorte et avec lui, et en chutant, nous aussi on est chuté, et nous aussi, la condamnation venait sur nous. La mort physique, la séparation d'avec Dieu, la communion avec Dieu, la mort spirituelle, et la mort éternelle si on décède dans cet état-là sans avoir reçu la grâce souveraine de Dieu. Et le verset 19, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, on parle de qui? De Christ, ont été rendus, seront rendus justes. » Tellement important, ça, faire la parallèle entre le premier et le deuxième Adam. Et 1 Corinthiens 15, les versets 21 et 22, là où on vient donner la signification du premier et deuxième Adam. Et oui, 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. « Car puisque la mort est venue par un homme, qui? Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » On parle du deuxième Adam, on parle de Christ. Alors, la mort est venue par Adam et la résurrection est venue par Christ, ou le problème au péché. Et verset 22, « Et comme tous meurent en Adam. » Tellement un verset important, ça. Vient nous dire qu'à cause du péché d'Adam, on est tous coupables, on est tous morts avec lui et en lui. Comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Donc, on a les deux personnes. Le premier Adam, ce qu'il a emmené dans le monde. Le deuxième Adam, il a emmené autre chose dans le monde. Alors, toute l'humanité est incluse dans le péché d'Adam. Nous sommes tous coupables et condamnés en Adam, et nous mourrons tous en Adam. Béni soit Dieu pour le deuxième représentant, le dernier Adam. On dit souvent de Christ qu'il est le deuxième Adam. Lui aussi se trouve être le représentant de ceux que Dieu a décidé d'accorder le salut, soit le Seigneur Jésus-Christ, le chef de file de la nouvelle humanité. On va regarder le deuxième point, les coupables inculpés. Alors, vous remarquerez une chose dans le texte aussi, Dieu n'interroge pas le serpent. Il a interrogé l'homme, il a interrogé la femme. Le serpent, il ne l'interroge même pas parce qu'il est déjà condamné. Il ne veut même pas savoir le prétexte ou les mensonges qu'il pourrait dire. Il ne cherche pas à susciter en lui un sentiment de culpabilité ou de lui arracher une confession. Il est déjà un rebelle récalcitrant, exclu de la rédemption, et il a délibérément décidé d'égarer l'être humain que Dieu vient de créer. Le diable n'est pas autorisé à présenter sa version des faits. Voyez-vous, quand on regarde l'inculpation, alors remarquez l'ordre de l'inculpation. On a marqué l'ordre de l'interrogation. Maintenant, regardez l'ordre de l'inculpation. Par qui commence? Alors, il dit, verset 3, chapitre 3, verset 14 et 15, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, les coupables viennent à la barre dans l'ordre d'autorité. Satan en premier. Dieu s'adresse au serpent parce que le serpent était possédé du diable. Or, en présence de Dieu, le diable est obligé d'écouter en silence l'énoncé du jugement divin. Alors, le tentateur est une créature que Dieu tient responsable de ses actions. Même si le serpent n'est pas nécessairement la cause du péché, il n'en est pas moins coupable. Ève a raison de l'accuser de l'avoir séduite, mais elle a tort de s'excuser de ses propres actions. Les propos accusateurs de Dieu contre le serpent, « puisque tu as fait cela », reprennent l'accusation de la femme. Le tentateur poursuivait des buts mauvais dans le jardin. Il était venu pour mentir, séduire et insinuer le doute. Alors, c'est la première fois qu'est prononcé le mot de malédiction dans toute la Bible, « maudit ». Et c'est certain qu'il l'a eu. Alors, le contraire de la bénédiction, et vous remarquerez, la malédiction comprend comme deux parties. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, bien sûr, quand on dit de quelqu'un qui a mordu la poussière, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il a été défait. ça a été vraiment une défaite quand on parle de mort de la poussière. Et la deuxième chose, dans la malédiction que Dieu donne au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. On va revenir sur le troisième point plus, développer ce point-là parce que c'est un point important dans le passage, là. Maintenant, on va passer à l'inculpation d'Ève dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, voyez-vous, il commence par le serpent, il va à la femme, il va à l'homme. Dans l'interrogation, c'était l'homme, la femme. Voyez-vous, c'est important de remarquer cela. Comme dans le cas du serpent, la sanction comporte deux volets. L'un relatif à ses enfants, l'autre relatif à son mari. Alors, ici, à ses enfants, Dieu ne retire pas à Ève la bénédiction de l'enfantement et de la multiplication, mais cette bénédiction deviendra amère et pénible. Bien entendu, on le sait, sans l'assistance médicale, la mise au monde des enfants est une expérience traumatisante et douloureuse pour la plupart des femmes. Ça, je pense que les femmes, vous seriez mieux placées pour en parler que moi. Mais je sais que c'est douloureux parce que j'ai déjà assisté à un accouchement puis je sais comment que ça crie des fois. En tout cas. Maintenant, par rapport à son mari, beaucoup de commentateurs croient qu'il s'agit du désir de la femme à dominer et à manipuler son mari qui, bien sûr, lui est contraint d'exercer une plus grande autorité pour l'assujettir. Les commentateurs que j'utilise me disent que oui, c'est une bonne... Parce qu'ils disent que Genèse 4:7 vient appuyer cette explication-là. Alors, le châtiment divin décrit soit l'exploitation des femmes par les hommes, ou soit l'origine de la guerre des sexes. Dans les deux cas, la suggestion et la lutte remplacent la relation harmonieuse dans l'amour conjugal. Alors, c'est vraiment l'idée que ton mari dominera sur toi. L'idée, c'est vraiment que la femme serait portée, après la chute, à vouloir dominer son mari, mais que le Seigneur ne lui permettra pas que ça se fasse, que c'est votre tour permet que ce soit le mari qui domine la femme. C'est ça qui est donné dans... Parce qu'il dit, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Donc, ça, c'est l'aspect avec les enfants. « Tu enfanteras avec douleur. » « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il, le mari, dominera sur toi. » fait partie de sa condamnation. Maintenant, l'inculpation d'Adam, versets 17 à 19, il lui dit, à cause qu'il écoutait la voix, il dit, « Le sol va être maudit à cause de toi, ta force de la peine, tu tireras ta nourriture, tu produiras des ronces et des épines, tu mangeras l'herbe de la sueur de ton... » Alors, ici, il y a encore une condamnation qui est double. L'homme aura dorénavant de la misère pour obtenir sa nourriture, à sueur de son front. La deuxième chose, c'est le fait, quand il lui rappelle dans la dernière partie, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière », il vient lui montrer que le sol va avoir le dernier mot sur lui. Ça m'a dit la mort. Maintenant, je pense que... On va arrêter là parce que je suis pas d'arrêter trop long à dire. Je le terminerai la semaine prochaine. Seigneur, encore une fois, on veut te remercier pour cette étude et on te prie, Seigneur, de bénir le reste de cette journée et le reste de cette semaine. Ton Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on te prie. Amen.